Bonsoir à tous. Eh bien, nous allons pouvoir commencer cette conférence. Merci. Donc voilà, je suis ravie donc de vous accueillir nombreux dans ce remarquable édifice qui est le pavillon du Hamel, au nom de la municipalité de Mantes-la-Jolie, mais aussi du service patrimoine et tourisme auquel j'appartiens. Donc une petite précision, qu'est-ce que le service patrimoine et tourisme ? C'est un service qui rassemble le musée de l'Hôtel Dieu, le patrimoine et un point infotourisme qui se trouve rue Thiers. Donc dans le cadre de sa programmation, le service patrimoine et tourisme vous propose un cycle de conférences autour de l'architecture et du patrimoine, pas seulement mantais, mais d'un point de vue général également. Et nous démarrons aujourd'hui avec cette conférence ce cycle se poursuivra toute l'année 2017 et nous espérons continuer plus longtemps encore. Donc cette conférence s'intéresse particulièrement aux transformations urbaines de Mantes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour contextualiser un petit peu cette conférence, donc en avril 2015, la ville de Mantes-la-Jolie et la région Île-de-France ont signé une convention de partenariat en vue d'établir un inventaire du patrimoine culturel de la ville de Mantes. Cette rencontre mettra donc en lumière les recherches révélées par cet inventaire urbain, patrimonial et paysager mené sur l'ensemble du territoire mantais. Cet inventaire réalisé par le service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France en lien avec le Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement du département 78. Eh bien, c'est donc avec Madame Roselyne Buissière qui est présente justement et qui interviendra sur cette conférence, qui est conservateur du patrimoine, du service patrimoine et inventaire de la région Île-de-France. Et naturellement, cette conférence ne pouvait pas se faire sans Damien Boucher, qui est bien sûr l'archiviste que certains connaissent aux archives municipales de Mantes-la-Jolie. Et pour finir, Pierre Cueny, qui est pas très loin, qui est présent en tant que, bien sûr, directeur de l'ECM, le Chapelain, procédera à l'enregistrement de cette conférence. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole aux intervenants. Merci.
Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, parler de la reconstruction de Mantes, et c'est par là qu'on va commencer, c'est nécessairement évoquer les destructions subies par la ville. Comme vous le savez, celles-ci, elles sont particulièrement lourdes à Mantes, comme d'ailleurs dans bien d'autres villes du nord et du nord-ouest de la France en particulier. Et au sortir de la guerre, il n'est guère exagéré de dire que Mantes est une ville quasiment en ruine. Alors si de premiers bombardements ont lieu dès le mois de juin 40, lors de l'offensive allemande, donc des bombardements qui pour le coup sont réalisés par l'armée allemande, qui occasionnent déjà d'importants dégâts, donc en juin 40, et qui font déjà près de 70 morts, ce sont bien sûr les bombardements du printemps 44 qui furent particulièrement terribles donc sur la ville de Mantes. Entre le mois d'avril, la fin du mois d'avril 44 et le mois d'août, donc en l'espace de 3 mois à peu près, la ville subit pas moins de 34 bombardements, donc c'est quand même particulièrement intense, et deux d'entre eux sont, vous le savez sans doute, particulièrement destructeurs. Le premier, c'est celui du 7 mai 44, donc à Gassicourt, et le second qui reste dans les mémoires, c'est celui du 30 mai 44 dans le centre historique de Mantes. Ces bombardements, et on le voit très bien, je vais retirer, hop, on va commencer sur cette première carte en fait qui a été réalisée un petit peu après, qui représente, alors je ne sais pas si vous verrez très très bien, mais tous les petits points que vous voyez représentent les impacts des bombardements sur les mois d'avril et de mai 44. Et donc on voit quand même de loin, je pense qu'on voit assez nettement cette concentration des impacts qui en fait se situent autour de deux objectifs, des objectifs stratégiques que constituent donc d'une part toute la voie de chemin de fer et tout ce qu'il y a autour, la gare, le dépôt, la CIMT un petit peu plus bas, là c'est sûrement la ville, la station magasin qui est alors occupée par l'armée allemande. Ça c'est le premier objectif stratégique, on voit quand même une concentration particulièrement importante sur, tout au long de la voie de chemin de fer. Et le deuxième objectif stratégique, c'est celui notamment pour le... qui sera visé lors du bombardement du 30 mai 44, c'est autour des ponts, et donc du pont qui traverse la Seine. Ces objectifs stratégiques qui sont visés par les bombardements, ils sont destinés à, sinon empêcher, du moins ralentir le ravitaillement d'hommes, de matériel, de l'armée allemande vers le front qui se prépare en Normandie. Donc on est dans les semaines qui précèdent le débarquement en Normandie le 6 juin 44 et l'objectif est celui-là. Et donc Mantes se situe vraiment sur cet axe de communication principal dont elle a d'ailleurs longtemps bénéficié au cours de son histoire, mais là pour le coup elle va en payer le prix fort. C'est l'axe de communication principal vers la Normandie, par la Seine, par la voie ferrée, par la route, et donc ces bombardements visent en particulier cet objectif-là. Alors, et on le voit aussi sur la carte, hein, compte tenu, et c'est le moins qu'on puisse dire, du quand même peu de précision de ces bombardements, tous les quartiers, donc autour, qui se situent plus ou moins loin de ces objectifs stratégiques, vont subir de lourds dégâts, les dégâts qui vont être particulièrement énormes. Et au lendemain de ce jour funeste, hein, qui reste dans l'histoire de Mantes et que constitue ce 30 mai 44, l'un des principaux journaux locaux fait cette une en annonçant que Mantes est aux deux tiers détruite, donc au lendemain du bombardement du 30 mai 44. Pour se rendre compte aussi, on peut effectivement voir quelques photos qui sont extraites en fait de différents dossiers qui ont été réalisés peu de temps après par l'architecte Marabout. J'en ai juste sélectionné deux, notamment ce premier donc autour de la rue Nationale, où ça se passe de commentaires, mais on voit que ce quartier, donc la place Saint-Maclou, la rue Thiers, le bas de la rue Nationale est entièrement rasé, hein, les photos parlent d'elles-mêmes. Ou un petit peu plus loin, donc on retrouve ce secteur autour du bas de la rue Nationale et autour de l'ancienne prison, donc elle aussi était complètement détruite. Il y a d'ailleurs beaucoup de victimes dans ce bâtiment. Donc, un bref aperçu qui montre bien visuellement l'ampleur des destructions qu'a connues la ville au cours des bombardements du printemps 44. Alors en termes de bilan, si le bilan humain s'établit environ à près de 500 morts, les sources varient assez sensiblement par rapport aux immeubles qui ont été détruits ou endommagés par ces bombardements. Si l'on se base sur un rapport qui date de novembre 1947, celui que j'ai sélectionné qui paraît a priori le plus précis et le plus fiable en la matière, j'ai ciblé sur, il comporte plusieurs pages, mais pour qu'on vous preniez la mesure de l'ampleur des destructions, donc c'est un bilan qui est établi en novembre 1947 sur l'ensemble de l'agglomération, donc si on cible sur la ville de Mantes-Gassicourt. Déjà on apprend que donc au moment de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Mantes compte un peu plus de 3000 immeubles, que sur ces 3000 immeubles, il y en aurait 460 qui seraient totalement détruits et 1709 qui sont endommagés, alors à des degrés très divers, donc sur un total dans la dernière colonne de droite, donc ce qui nous donne un total de 2169 immeubles sur un peu plus de 3000, donc c'est quand même particulièrement conséquent, qui ont été endommagés à des degrés divers lors des bombardements du printemps 44. Conséquence aussi, bien sûr, sur au-delà des victimes de ces bombardements, mais en termes de logements et des familles sinistrées, on trouve dans le même rapport donc, ce chiffre de 2675 familles sinistrées recensées en 1945, ce qui doit correspondre peu ou prou à 4 ou 5000 personnes. Mantes compte à l'époque autour de 13 000 habitants, donc là encore, ça permet de prendre conscience de l'ampleur des destructions. On peut du coup estimer, pour avoir un ordre de grandeur, hein, c'est 60% des immeubles de la ville qui ont été touchés, encore une fois, à des degrés divers par ces bombardements, et environ 15% du parc immobilier total de la ville qui a été entièrement détruit après ces bombardements. L'urgence, de fait, dans les mois et dans les années qui suivent ces bombardements, va être au relogement. Ça va être la principale problématique. D'abord, de manière provisoire, on voit en différents points de la ville s'édifier des baraquements provisoires, des dizaines de baraquements provisoires, et puis des solutions plus pérennes. Ensuite, c'est l'amorce de la reconstruction. Alors, le lien de causalité directe entre les destructions d'une part et la reconstruction d'autre part, il apparaît bien sûr évident au premier abord, sauf que quand on regarde d'un petit peu plus près et de manière beaucoup plus détaillée les choses, on va s'apercevoir qu'entre les quartiers qui ont été détruits et ceux qui vont être reconstruits, que les choses ne se superposent pas parfaitement pardon, et qu'il n'y a pas une coïncidence parfaite. Je prends juste un exemple pour illustrer cela. Si on regarde cette photo, on va regarder plusieurs photos. Donc, dans ce secteur, autour du bas de la rue Auguste Gousse, donc on a vu tout à l'heure que, à proximité immédiate de la rue Auguste Gousse, le secteur est entièrement détruit. Alors, c'est une photo qu'on peut dater assez facilement, d'abord parce qu'on est dans une phase de déblaiement des décombres, et puis on voit en arrière-plan que la Seine est en crue, donc la photo date très probablement de l'hiver 44-45. Et vous voyez qu'au second plan, ce qu'on appelle alors les bas quartiers, semble quand même avoir été relativement épargné. On voit tout à fait en arrière-plan les usines, mais on voit ce quartier, on le voit d'autant plus nettement sur les premières photos de la première phase de reconstruction. On voit bien que ce secteur des bas quartiers, bah, finalement, il a été quand même relativement épargné. Il est encore bien debout par rapport au secteur qui jouxtait immédiatement la rue Gouste. Et on sait pourtant que ce secteur, il va être entièrement reconstruit. Donc ça revient à ce que je disais à l'instant, que ça ne se superpose pas exactement entre les destructions d'une part et la reconstruction d'autre part. Ce qui nous amène à dire effectivement que la reconstruction, finalement, et on va le voir au cours de cette première partie, s'inscrit dans un processus beaucoup plus global, et que les germes, d'une certaine manière, étaient déjà présents avant même les bombardements. Et donc ça nous amène à re-questionner ce lien de causalité directe entre les destructions et la reconstruction, pour essayer, c'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette première partie, de tenter vraiment de comprendre les origines et les motivations qui ont abouti à la reconstruction. Et si on se plonge finalement dans les archives des années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, on va se rendre compte assez rapidement que la reconstruction ne va pas être la conséquence unique et directe des destructions, mais qu'elle répond aussi à d'autres objectifs qui étaient déjà en gestation dès les années 20. Alors, pour aller un peu plus loin dans la compréhension des causes de la reconstruction, il faut déjà dire, et vous ayez bien à l'esprit, que la ville de Mantes présente dans cette première moitié du XXe siècle un visage somme toute assez vieillissant, qui est hérité de sa très longue histoire. Mantes a été fondée en tant que commune dès le début du XIe siècle, donc c'est une ville médiévale, et que le centre-ville est directement hérité de cette origine médiévale, qui n'est pas d'ailleurs sans poser un certain nombre de problèmes en termes de circulation, en termes d'hygiène, etc., dans ce centre historique. Alors, pour se représenter la physionomie mantaise de l'époque, je vous propose de regarder quelques différentes représentations, en commençant par cette première photo, qui est une vue aérienne, donc, qui a été réalisée par l'IGN, qui représente donc prise en 1936, donc quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai justement sélectionnée parce que c'est vue par définition du dessus, qui permet d'avoir cette vision un petit peu globale. Et ce qui apparaît dans un premier temps, c'est le contraste entre le centre historique, très grossièrement ce que j'ai entouré en orange, et les quartiers plus récents. Sur le centre historique, qui a peu ou prou cette forme de demi-cercle, qui je vais revenir après, qui suit les remparts, on remarque, je dirais justement, on ne remarque pas de cette vue aérienne, on devine en tout cas que les rues sont extrêmement étroites, sinueuses, courbes, et que tout cela est relativement peu organisé, à contrario des quartiers beaucoup plus récents, le quartier des Martrais, le quartier de la Gare, le quartier Saint-Jacques, qui au contraire, et là, même si c'est une vue de loin, on le voit beaucoup plus nettement, avec des rues beaucoup plus longue, beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus large, qu'on distingue à peine dans le centre-ville. Donc on a vraiment ce contraste entre la ville ancienne, médiévale, qui a un tracé très particulier, sur lequel je vais revenir dans un instant, et les quartiers beaucoup plus récents, avec cet urbanisme du coup beaucoup plus moderne. Alors on va remonter en comparaison à une époque beaucoup plus lointaine. Je me suis arrêté au XVIIe siècle avec ce plan. Alors c'est une représentation sans doute très, très fictive, mais qui permet, si je l'ai, donc c'est un plan d'image de 1622 qui est conservé aux archives départementales, mais qui permet de bien percevoir cette densité urbaine sur un territoire finalement très restreint, donc à l'intérieur des remparts de la ville. On voit bien cette concentration d'habitat extrêmement importante. En termes de voirie, donc on est à peu près sur la même époque, mais pour observer un petit peu comment est organisée la ville, si tant est qu'elle soit organisée, mais il y a quand même une organisation. Donc on retrouve ce que je disais tout à l'heure avec ces rues à l'allure extrêmement courbe, qui ne sont pas droites, pas rectilignes, hein, on voit de nombreuses bifurcations. Des rues qui s'organisent, alors d'une part, finalement en parallèle, qui suivent un peu la forme des remparts, c'est par exemple le cas de la rue de la Sangle, qui est quasiment parallèle à la forme du rempart. Et puis ensuite, on a les trois principaux axes de communication qui traversent la ville de Mantes. La route de Paris, qu'on arrive par la porte des Cordeliers, la route qui va vers Chartres par la porte aux Saints, et la route de Rouen vers la route de Rouen. Donc la ville, dans les grandes lignes, est organisée de cette manière-là, et notamment est organisée en fait autour de ces places, donc les trois principales places, la place de l'Étape devant la Collégiale, et puis les différentes places qui servent de marché, le marché aux Harengs et le marché en blé. Donc une organisation, on voit, assez typique des villes médiévales. Et pour terminer sur un troisième plan, qui est reconstitué évidemment, mais qui est assez précis, qui permet de bien voir la physionomie de la ville, qui représente la ville, on est au début du 19e siècle. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir finalement combien la ville finalement peut évoluer entre la ville médiévale, cette partie de la ville, là on voit que tout ce qui est en orange, qui représente l'ensemble du bâti, est encore, donc on est au début du 19e siècle, donc bien évidemment les remparts n'existent plus, pour autant l'essentiel de l'habitat, des bâtiments, sont encore concentré à l'intérieur des anciens remparts de la ville, et on retrouve cette organisation autour des rues que j'expliquais tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a peu d'évolution finalement entre la ville d'origine, la ville médiévale, et le début du 19e siècle. C'est vraiment en fait à partir de l'arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle que la ville va commencer finalement à sortir de ses remparts, si l'on peut dire, même si les remparts n'existent plus, mais va commencer à s'étendre à la fois vers la ligne de chemin de fer vers le sud et ensuite vers l'ouest, vers Gassicourt. Mais jusqu'au début du 19e siècle, il y a très peu d'évolution dans le tissu urbain qui reste très fortement marqué, imprégné par l'héritage médiéval. Les bâtiments publics, eux aussi, ne font pas exception à cet état assez vieillissant de la ville au début de la Seconde Guerre mondiale, avec des bâtiments dans le centre-ville qui se révèlent de plus en plus inadaptés face à l'augmentation de la population et aux besoins croissants qui en découlent en termes d'administration, en termes de services. Et là encore, nos archives sont très, très parlantes à la matière parce qu'on a énormément de dossiers qui ont trait à des travaux d'aménagement, d'extension de tous ces bâtiments, que ce soit l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville, que ce soit l'ancienne sous-préfecture rue de la Gabelle, que ce soit le commissariat de la Routière, tous les bâtiments aussi de l'ancien couvent des Ursulines, dans lequel on a aménagé la gendarmerie, la prison, etc. Enfin, tous ces bâtiments sont quasiment en travaux constants dans la première moitié du XXe siècle. On sent bien qu'on tente en permanence, mais sans vraiment y parvenir, d'essayer de les adapter pour accueillir de nouveaux services, etc. Donc, tout cela révèle l'état un peu vieillissant, hein, mais qui est encore une fois dû à l'origine, à l'histoire de la ville, donc de Mantes, dans cette première moitié du XXe siècle. On a bien, malgré tout, quelques réalisations qui rompent avec cet héritage médiéval, mais elles sont assez limitées. Alors en termes de voirie, on a le percement de la rue Royale, donc là on la voit ici, donc la rue qui traverse jusqu'au pont le Mantes, donc le percement de la rue Royale c'est en 1766, donc c'est une des premières rues un peu, on va dire, droites au sens moderne du terme. Et puis en termes de bâtiments, on peut penser par exemple en termes de nouveaux bâtiments qui sont construits, mais qui sont finalement encore pas très nombreux, en tout cas dans le centre-ville de Mantes. On peut penser à l'hôtel des Postes qui est construit en 1912. Mais tout cela ne résout pas les problématiques inhérentes à ce centre-ville ancien et à tous les problèmes que cela occasionne. Ces problématiques, les autorités municipales en ont largement conscience, et ça on s'en rend bien compte aussi en regardant les archives, où apparaît très nettement dans différents documents la perception de la nécessité et du besoin de réaménager en profondeur ce centre-ville ancien qui ne répond plus aux exigences modernes des anciens quartiers, en particulier, ce qui nous fait dire, on va le voir, que la reconstruction, finalement, elle est déjà en gestation dans la première moitié du XXe siècle. Je vais prendre juste deux exemples pour illustrer le fait que déjà, à partir au moins des années 1920, des années 1920-1930, les autorités municipales commencent à réfléchir à un réaménagement en profondeur de la ville qui finalement ne sera mis en œuvre qu'à l'occasion de la reconstruction. Donc deux exemples pour illustrer cela. Le premier exemple, il a trait à un dossier qui concerne un plan qui s'appelle un plan d'extension, d'aménagement et d'embellissement de la ville. Là, on est aussi au tout début des années 20. Sans rentrer dans le détail de ce plan qui est conçu, qui commence à être imaginé au début des années 20, ce qui est en fait vraiment significatif de la perception justement de la municipalité, ce qui est révélatrice de son état d'esprit, c'est qu'au départ, la réalisation de ce type de plan, qui est annoncé par une loi de 1919, elle ne s'impose pas à la ville de Mantes. En fait, c'est obligatoire que pour les villes de plus de 10 000 habitants. Or, à l'époque, Mantes n'atteint pas ce seuil de 10 000 habitants, et de fait, elle n'est pas obligée de concevoir ce plan d'extension et d'aménagement. Pour autant, elle va pourtant justement s'y atteler, elle va affirmer sa volonté de concevoir un plan d'aménagement et d'extension, alors même qu'elle n'y est pas obligée. Ça montre aussi l'état d'esprit dans lequel elle se trouve de vouloir remanier en profondeur ce centre-ville. D'ailleurs, le maire regrette justement que cette loi ne s'applique pas à une ville comme Mantes. Elle décide malgré tout d'établir un plan d'aménagement. La réalisation est confiée, donc on est en 1920, à Monsieur Chicoineau. Ce qui est intéressant dans ce plan, encore une fois, sans entrer dans le détail, ce sont les motivations et les préceptes qui vont guider la réalisation de ce plan, qui apparaissent c'est discuté dans un conseil municipal du 5 juin 1920. Je vous en ai mis un extrait qui me paraît le plus significatif, le plus révélateur de cet état d'esprit, parce qu'en regardant effectivement le détail et la teneur des débats qui se tiennent à l'occasion de ce plan d'extension et d'aménagement, ce qui ressort, c'est à la fois le volontarisme, la modernité, la vision à long terme qui se dégagent, et on est encore une fois en 1920, donc on est bien avant les destructions, mais on a déjà ces volontés qui apparaissent de manière très nette. Sur plusieurs plans, la première volonté, c'est celle de maîtriser. La ville affirme vraiment sa volonté de reprendre la main, de maîtriser son urbanisme face à des constructions, alors on ne va pas dire qu'elles étaient anarchiques, mais comme relativement désordonnées, qui avaient cours jusqu'à présent. Et la ville souhaite vraiment reprendre la main sur son urbanisme, réorganiser la ville selon un plan justement bien défini. Et en filigrane, c'est aussi, en matière d'urbanisme, c'est aussi la notion d'intérêt général qui émerge de tout ça, l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. Enfin, là, on le voit dans le bas du texte de la délibération, mais c'est dit assez clairement, la ville souhaite reprendre la main au service de l'intérêt général contre un certain nombre d'intérêts particuliers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez frappante aussi dans ce document, donc, il y a la volonté de maîtriser, il y a la volonté de prévoir. On est vraiment dans une volonté de planification, on peut parler de planification urbaine, en tout cas, il y a cette volonté-là qui est exprimée par la municipalité. Donc là, on sent bien, enfin, si vous... Le texte est peut-être un peu petit pour que vous lisiez, mais il y a cette prévisions, elle sent bien que la ville va avoir un développement économique, industriel particulièrement important, qui est déjà en partie à l'œuvre. Donc elle sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Elle veut du coup anticiper les nouveaux quartiers susceptibles de s'ouvrir, de les délimiter. Donc on est vraiment aussi dans une vision à long terme et dans une volonté de planifier et d'ordonner les choses. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau aussi pour l'époque. Et puis la troisième chose qui se manifeste à cette occasion, alors c'est la volonté d'une part d'assainir. Il y a vraiment cette question, mais je vais y revenir plus en détail un petit peu après. On va y revenir plus en détail avec Roselyne Bussetière autour de la question des îlots insalubres. Donc la question de l'hygiène qui est très présente aussi dans ces plans d'urbanisme qui se met en œuvre. Et de manière peut-être un peu plus surprenante, on a aussi, vous le voyez dans l'extrait que j'ai mis en exergue, des critères esthétiques. On parle de plaisir des yeux, on parle de séjour facile et agréable. Donc il y a aussi cette volonté, d'ailleurs ça, dans l'intitulé même du plan, on parle d'embellissement. Donc il y a aussi des critères esthétiques qui apparaissent dans ces motivations de réaménagement urbain qui apparaissent donc dès le début des années 20. Alors, une autre chose aussi qui est assez remarquable à l'occasion de l'adoption de ce plan d'extension et d'aménagement, j'ai parlé de vision à long terme, donc d'un point de vue chronologique, mais il y a aussi une vision plus large sur le plan, je dirais, géographique et territorial, dans la mesure où la ville de Mantes souhaite, pour réaliser ce plan d'extension et d'aménagement, s'associer avec les communes voisines, en l'occurrence Gassicourt et Mantes-la-Ville, et constituer à cet effet un syndicat de communes pour concevoir ensemble ce plan d'extension et d'aménagement. Et ça aussi, c'est assez précoce pour l'époque, hein. C'est finalement un des prémices de l'intercommunalité qu'on a déjà, et c'est particulièrement précoce, dès les années 1920. Donc cette volonté aussi de réfléchir ensemble, ce qui aussi anticipe les évolutions à venir avec le rattachement de Gassicourt qui aura lieu 10 ans plus tard, mais il y a cette volonté aussi de coordonner l'action en matière d'urbanisme. Ce projet, en réalité, il va peiner à se concrétiser, il ne va jamais être véritablement réalisé. C'est un projet qui n'est pas abouti, mais qui est significatif dans cette volonté qu'a déjà en 1920 la ville de remanier en profondeur son urbanisme au niveau du centre historique. Le deuxième exemple pour illustrer cette volonté de profond réaménagement urbain qui émerge dès les années 20, il concerne le projet d'ouverture, et le plan est particulièrement parlant, c'est le projet d'ouverture d'une nouvelle voie, d'une nouvelle rue. Donc on est là encore dans les bas quartiers, vous voyez la Seine tout en bas. Donc en fait, le projet concerne une rue qui serait parallèle à la Seine, qui partirait donc de la place de l'Étape, de la Collégiale, jusqu'à la rue Castor, voire au-delà. Donc on voit que c'est un projet. Donc là, vous voyez que le plan il date de 1921, donc on est toujours au début des années 20, et que ce projet est particulièrement ambitieux, hein, la rue est particulièrement importante, et il dénote aussi, le plan parle aussi de lui-même, puisque la rue, vous le voyez, traverse littéralement tout ce qu'on appelle alors les bas-quartiers, et on sent du coup qu'on a déjà à cette époque-là la volonté de reprendre et de reconstruire finalement ce quartier-là qui pose bien des problèmes, on va le voir, en termes d'assainissement, et que là, à travers ce projet de rue, on voit bien qu'il traverse complètement, donc si on veut le réaliser, qu'on va devoir passer par des destructions. Donc il y a déjà cette velléité de reconstruction dès le début des années 20 qu'on voit bien avec ce projet-là. Là encore, comme tout à l'heure pour le plan d'extension et d'aménagement, le projet ne va être, alors il va être très partiellement réalisé. En fait, il y a seulement un tronçon de cette rue qui avait été imaginée, qui va véritablement être réalisé entre la rue de la Gabelle et la rue Potard. On va le voir sur un plan un peu plus tardif. Donc là, c'est un plan, on est en 1939, donc on retrouve toujours ce même projet, alors qui est peut-être un peu moins ambitieux, là, qui s'arrête à la rue de Guerne, mais on a toujours cette volonté. Et ça vous renvoie aussi à ce que je vous disais tout à l'heure sur les rues étroites, sinueuses, etc. Là, on voit vraiment cette volonté de revenir à des rues beaucoup plus rectilignes et beaucoup plus larges. Vous voyez la différence de largeur entre les petites rues qui descendent vers la Seine, et là, c'est la largeur de la nouvelle rue qui est projetée. Et donc, on voit le premier tronçon qui a été réalisé entre la rue de la Gabelle et la rue, rue Potard, donc tout à gauche. C'est le seul tronçon qui a été réalisé dans les années 30. Tout le reste du projet n'a pu être réalisé pour tout un tas de raisons. Autour de ce petit tronçon qui a malgré tout été réalisé dans les bas quartiers, a été construit donc de nouveaux bâtiments. On va avoir un immeuble collectif, HBM, comme on disait à l'époque, habitation à bon marché, donc rue de la Gabelle, et juste à côté, un établissement de bain-douche. Car, si j'insiste sur ces deux bâtiments, c'est qu'ils sont aussi assez révélateurs de l'état d'esprit de l'époque et de la façon avec laquelle on aborde les projets urbains. Car l'ensemble de ces projets, on l'a vu tout à l'heure en partie avec le plan d'extension et d'aménagement qu'on avait imaginé adopter d'une part et avec ce projet d'ouverture d'une nouvelle rue, tout cela montre bien le lien finalement assez étroit à l'époque, et ça il faut bien avoir à l'esprit, qui unit urbanisme et hygiène. On voit que ces deux aspects sont toujours assez étroitement liés, que les projets urbains, voire architecturaux, sont à l'époque toujours assez fortement influencés par ces préoccupations en matière d'hygiène. Alors le lien pour l'établissement de bain-douche que j'évoquais tout à l'heure, il est évidemment assez évident. Et le choix même de le placer là, si on retrouve les débats, il y avait un premier établissement de bain-douche qui existait déjà à l'époque, Place de Lorraine, donc là c'est le second. Et on a aussi pas choisi de le placer là par hasard, mais aussi parce qu'il s'adressait, c'est ce qui est dit dans le texte d'ailleurs de la délibération, il s'adressait à la population ouvrière qui peuplait très majoritairement ces quartiers, qui posent d'ailleurs de gros problèmes en termes d'insalubrité. Donc là, le lien avec les préoccupations en termes d'hygiène, il est assez évident. Mais on le retrouve aussi dans le projet, dans la construction de l'immeuble HBM, donc juste à côté, ou alors sans rentrer dans les détails, mais il y a un détail parce qu'il me paraît excessivement révélateur et significatif, encore une fois, de cette préoccupation hygiéniste permanente à l'époque, où il y a un détail, donc ça c'est l'immeuble effectivement qui va être édifié rue de la Gabelle. Et lorsqu'on prévoit la construction, on envisage, et a priori ça va être réalisé, on envisage l'installation d'évier-vidoirs pour ordures ménagères. C'est un peu l'équivalent des vies d'ordures, mais c'est particulièrement innovant pour l'époque. On a toute une notice descriptive, je vous ai mis là le petit schéma qu'on retrouve dans la notice descriptive qui explique toute la circulation. Mais ça me paraît extrêmement révélateur et significatif de l'état d'esprit de l'époque et de la préoccupation permanente qu'on a en matière d'hygiène, notamment parce que dans ces bas quartiers, on avait énormément de problèmes sur l'évacuation des eaux usées et l'évacuation des ordures qu'on retrouvait souvent dans les cours qui stagnaient avec tous les problèmes d'hygiène et d'odeur qu'on pouvait imaginer. Donc là, ça répond aussi à cette problématique-là qu'on avait bien perçue. Mais c'est un exemple en soi anecdotique, mais qui est très révélateur de l'état d'esprit de l'époque. Alors pour conclure sur cette première partie, finalement pour répondre en partie à la question que j'avais posée en introduction sur le lien de causalité entre les destructions et la reconstruction, on a vu que tout cela ne coïncidait pas forcément toujours parfaitement. Les deux projets là dont je vous ai parlé, ils mettent en lumière plusieurs choses, et c'est ça qu'il faut en retenir. La première chose, c'est la volonté forte de la ville de mieux maîtriser son urbanisme. Ça apparaît très clairement, il y a cette volonté de maîtriser. La deuxième chose, c'est la volonté tout aussi affirmée de remanier en profondeur certains quartiers, y compris, on l'a vu avec le projet d'ouverture de voies nouvelles dans les bas quartiers, y compris en passant par des destructions si cela s'avère nécessaire. Mais troisième point, on voit bien aussi toutes les difficultés, les lenteurs auxquelles ces projets se trouvent confrontés, puisque je vous ai dit que le plan d'extension et d'aménagement, finalement, il n'avait jamais été réalisé, que le projet d'ouverture de la voie nouvelle, il n'a été que très partiellement réalisé. Donc on voit bien que tout cela se heurtait à un certain nombre de lenteurs, de difficultés administratives, financières, techniques, etc., qui ne permettaient pas à ces projets d'aboutir. Et par rapport à ça, du coup, on voit bien que les destructions consécutives au bombardement du printemps 1944 eh bien, vont finalement, évidemment de manière tragique, mais ils vont finalement précipiter, accélérer, vont permettre la réalisation de tous ces projets. Je vous en ai donné deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, tous ces projets qui étaient déjà en gestation dans les années 20, dans les années 30. D'une certaine manière, même si c'est difficile évidemment de le dire comme ça, mais d'une certaine manière, les destructions, les bombardements vont constituer une opportunité pour réaliser tous ces projets qu'on n'avait pas pu faire dans les décennies précédant la Seconde Guerre mondiale. De fait, avec les destructions massives telles qu'on les a vues liées au bombardement, l'heure n'est évidemment plus aux tergiversations et la reconstruction, telle que finalement on l'avait déjà imaginé, rêvé sans doute dans les décennies, dans les années 20, dans les années 30, elle va s'imposer évidemment désormais d'elle-même et en premier lieu autour des bas-quartiers et des îlots insalubres que je vous propose d'aborder maintenant. Alors sur la question des îlots insalubres, et avant de laisser la parole à Roselyne Bussière, juste rappeler quelques éléments, encore une fois, pour replacer les choses dans leur contexte, aussi bien en matière législative qu'en matière de documents d'archives. Tous les projets, les différents projets qu'on vient d'évoquer, vous l'avez vu, montrent à quel point à cette époque l'urbanisme et l'hygiène sont étroitement mêlés. En fait, ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus global qu'on appelle un mouvement hygiéniste, qui émerge dès la seconde moitié du 19e siècle et qui influence en fait beaucoup de domaines, mais en particulier l'urbanisme de cette époque. C'est le cas un peu partout en France. Alors, pour prendre l'exemple, parmi les exemples plus connus, aussi à Paris, où les grands travaux liés à l'haussmannisation ne se limitent pas non plus, comme on veut parfois le faire croire, un souci d'ordre public, mais répond aussi à des préoccupations sociales et hygiénistes. Et à Paris comme ailleurs, la disparition de ce qu'on appelle alors les taudis et la lutte contre l'habitat insalubre deviennent des priorités à partir de la seconde moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Et c'est sur ces dispositions législatives, c'est traduit dans différentes lois, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner les principaux éléments qui vont être à l'origine de la plupart des sources d'archives qu'on conserve à Mantes sur cette question. Alors, très rapidement, mais pour avoir quelques éléments en termes de chronologie, la première loi qui se préoccupe de cette question, elle est de 1850. C'est une loi sur l'assainissement des logements insalubres. Et c'est d'ailleurs la première fois où on tente de définir qu'est-ce que c'est un habitat, qu'est-ce que c'est un logement insalubre. Alors, la définition qui est donnée par la loi, c'est des logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants. Donc c'est la première fois qu'on tente un peu de définir et de cadrer qu'est-ce que c'est qu'un habitat insalubre et qu'on va tenter de prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre cette problématique. Parmi les dispositions qui figurent dans cette loi de 1850, qui est souvent d'ailleurs considérée comme la première véritablement loi française d'urbanisme, parmi les principales dispositions, on note la création de commissions municipales d'hygiène. Alors, en réalité, il n'y a pas d'obligation en la matière, donc elles seront en réalité assez peu nombreuses et assez vite oubliées. Ce qui est peut-être important dans cette loi et par rapport au sujet qui nous intéresse, bien qu'elle soit peu contraignante, finalement, même vous l'avez vu dans la définition même de l'insalubrité, ça reste relativement flou, c'est que cette loi, elle montre quand même une certaine volonté au terme est un peu anachronique, mais une volonté de décentralisation sur ce sujet, puisque l'essentiel des pouvoirs en matière de lutte contre la salubrité va, dès cette loi de 1850, être confié aux maires et aux autorités municipales qui deviennent les acteurs centraux, ce qui explique d'ailleurs que dans nos archives, on retrouve beaucoup de documents, parce que c'est les maires et la municipalité qui vont être les acteurs centraux de la lutte contre la salubrité. Alors, à Mantes, ces dispositions semblent encore avoir relativement peu de conséquences, même si une commission municipale d'hygiène a effectivement été créée. Alors, je n'ai pas retrouvé la date précise, mais on en trouve trace en 1896, donc visiblement dans les années 1880. Elle compte alors trois médecins, dont M. Bonneau et M. Biorel, et deux pharmaciens, dont M. Grave, je donne les noms qui sont les plus connus et qui ont donné justement leur nom à des rues de Mantes. Donc, donc on a bien une commission municipale d'hygiène à Mantes à la fin, à la toute fin du 19e siècle. Un petit peu plus tardivement, on a une seconde loi importante en la matière, c'est la loi de 1898 sur le code rural. Cette loi, elle va confirmer le rôle prépondérant que j'évoquais à l'instant des maires en matière de sécurité et de salubrité publique. C'est vraiment les acteurs centraux dans ces deux domaines-là. Cette loi, sans rentrer dans le détail, mais elle institue différentes procédures, notamment en matière d'immeubles menaçant ruine. Donc la municipalité, les maires vont avoir un certain nombre de pouvoirs pour prescrire aux propriétaires des travaux pour tous les immeubles qui présenteraient un danger aux usagers de la voie publique. Mais là encore, et de la même manière que pour la loi de 1850, toutes ces dispositions restent quand même relativement peu contraignantes. Elles rencontrent les plus grandes difficultés à être appliquées, face notamment au poids des propriétaires, face à des intérêts, à d'éventuels intérêts électoraux, bien souvent, des élus municipaux. Et cela, on le voit assez rapidement quand la municipalité, quand le conseil municipal va travailler sur l'application de la seconde loi, qui est la loi 1902 sur la santé publique. Et à l'occasion des débats, on sent que les conseillers municipaux se sentent assez démunis pour lutter contre l'insalubrité. Dans le conseil municipal de l'époque, donc à l'occasion de l'application de cette loi de 1902, le rapporteur donc au conseil regrette notamment l'absence d'armes de défense contre de pareils abus et, donc je cite le texte de la délibération, une démarche officieuse et sentimentale, et purement sentimentale auprès de propriétaires trop intéressés à maintenir le statu quo. On sent un peu le désarroi de ces conseillers municipaux qui se sentent pas suffisamment armés pour lutter contre l'habitat insalubre. La loi de 1902, elle va pour le coup là accroître les dispositions réglementaires en matière de lutte contre l'insalubrité. Trois dispositions principales. La première, c'est l'obligation, là, pour le coup, d'instituer un règlement sanitaire communal. Alors, à Mantes, on aura effectivement un règlement sanitaire qui sera adopté en 1903, donc qui règle un peu toutes ces questions en matière de salubrité publique, donc notamment du point de vue des logements. L'adoption de ce règlement sanitaire, de ce qui ressort des documents du conseil municipal et des débats, semble avoir été adoptée après des débats plutôt vifs, semble-t-il. On sent encore qu'il y a quand même des pressions encore assez fortes pour essayer d'amoindrir ou de limiter la portée de certaines dispositions de ce règlement sanitaire au nom des propriétaires peu fortuné, nous dit-on. Le maire lui-même, d'ailleurs, précise que le règlement ne sera toujours appliqué qu'avec modération. Donc on sent quand même cette timidité, cette prudence, en tout cas, à appliquer un certain nombre de dispositions pour lutter véritablement contre l'habitat insalubre. La deuxième disposition de cette loi de 1902, c'est la possibilité d'interdire d'habiter, donc c'est quand même une mesure assez forte, l'interdiction d'habiter de tout ou partie d'un immeuble qui serait jugé insalubre. Et la troisième disposition, il y a une possibilité également de prescrire des travaux d'office, donc si le propriétaire se montre défaillant, enfin montre des réticences à appliquer les dispositions, donc le maire peut prescrire des travaux d'office. Donc on sent que cette loi quand même consolide et renforce l'arsenal législatif pour lutter contre l'habitat insalubre. Et là, pour le coup, à la suite de cette loi de 1902, on va avoir des documents assez nombreux et qui permettent, je vais en prendre juste deux ou trois exemples, qui permettent de se rendre compte de l'état dégradé quand même de l'habitat à Mantes dans certains quartiers. Alors j'ai ciblé du coup deux exemples sur les bas quartiers, sur ce qui va devenir après les îlots insalubres. On a par exemple, donc là on est sur un immeuble de la rue du métier, donc on est dans les bas quartiers. Un compte rendu donc du médecin inspecteur d'hygiène, on est en 1936, qui préconise justement d'avoir recours à la procédure de la loi de 1902 pour obtenir l'interdiction d'habiter de cet immeuble de la rue du métier qui est jugé en l'occurrence dangereux et insalubre, alors pour des raisons extrêmement nombreuses, à la fois parce que les surfaces se révélaient nettement insuffisantes, là je crois en l'occurrence c'était pour une famille de 8 personnes, donc on sent qu'elles étaient entassées dans une surface très réduite, un éclairage très insuffisant également, et puis très clairement ce qui apparaît dans ce document, un très mauvais état général de cet immeuble. Donc on a signalé, je crois, une toiture qui n'est pas étanche, des murs humides, des problèmes, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'évacuation des eaux usées, des fosses d'aisance, etc. Donc voilà, ça, un exemple parmi beaucoup d'autres, mais qui montre bien l'état dégradé et insalubre de tous ces immeubles des bas quartiers près de la Seine. Un deuxième exemple, toujours dans le même quartier, on est cette fois rue des Ursulines, où suite donc à une plainte relayée, vous voyez l'en-tête, par l'Union des locataires, un arrêté va être pris par le maire pour, ce que je disais tout à l'heure, enjoindre le propriétaire à entreprendre les travaux nécessaires donc pour garantir la salubrité. Alors, tous ces documents, j'en ai pris vraiment deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres en l'occurrence, ils sont particulièrement révélateurs et significatifs. Alors, à la fois de la situation, vous l'avez compris, quand même très critique en termes d'hygiène. Là, sur ce dernier exemple, on a par exemple un seul WC, nous dit-on, qui n'est pas éclairé, pas aéré et pas nettoyé pour un total de 13 logements, pour 18 personnes. Vous voyez un peu l'état, la situation. L'absence d'eau potable aussi dans cet immeuble. Donc on voit quand même des problèmes très, très critiques. Mais on se rend compte aussi des difficultés, là encore, à faire respecter la réglementation. Toujours dans ce dernier exemple, si je me souviens bien dans le dossier, il faudra pas moins de 3 réclamations, plus le courrier qu'on a vu tout à l'heure de l'Union des locataires, pour enfin aboutir à un arrêté du maire enjoignant le propriétaire à faire les travaux nécessaires. Donc on voit qu'il faut quand même beaucoup insister, qu'il y a quand même des difficultés à faire respecter la réglementation. Ça s'explique par plusieurs choses, mais toutes ces mesures, en réalité, depuis la loi de 1850, donc ces 3 principaux textes que je vous ai évoqués, ils peinent à appliquer, en fait, parce qu'ils ne permettent pas une approche globale du problème de l'habitat insalubre. Mais on voit bien à chaque fois, à chaque exemple, ils sont appliqués au cas par cas. Logement, il faut qu'il y ait une plainte en général du locataire. Donc c'est vraiment au cas par cas, quand il y a une plainte, on essaie de régler le problème, mais on n'est pas du tout dans une approche globale et systématique. Pour ça, il faudra vraiment attendre les années, les décennies précédentes. On va être vers la fin des années 30, début des années 40. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va entrer, qu'on va être du coup plus efficace, qu'on va entrer dans une approche globale du problème de l'insalubrité, avec la sectorisation, en fait, on va définir des quartiers, donc on va plus raisonner au cas par cas, mais par secteur, par zone, par quartier, et c'est donc à ce moment-là qu'on va définir, dans la ville de Mende comme dans bien d'autres, ce qu'on va appeler donc des îlots insalubres, qui vont permettre une approche beaucoup plus systématique de l'habitat insalubre, et sortir de ce règlement au cas par cas qu'on avait bien du mal à appliquer. Donc là, on a vraiment un changement d'approche à partir de la fin des années 30 et des années 40. Là encore, c'est renforcé par un certain nombre de dispositions, notamment par une loi de 1915 qui permet, donc là encore, on continue à renforcer finalement les dispositions qui permet l'expropriation pour cause d'insalubrité publique et qui va donc donner aux autorités de nouvelles armes pour lutter contre l'habitat insalubre. Des commissions en fait d'architectes sont déléguées pour établir des observations sur le terrain. Donc toujours là, on va être dans une approche beaucoup plus systématique, pas au cas par cas, et que ces observations vont donner lieu à l'établissement de dossiers particulièrement détaillé sur chacun des logements visités. Donc on fait vraiment un état des lieux, immeuble dans chaque îlot, immeuble par immeuble, logement par logement, avec des choses extrêmement détaillées. Ces dossiers, ils ont pour objectif de déclarer le caractère salubre ou non des logements, donc s'ils sont salubres ou non, et le cas échéant, à fixer les indemnités justement en cas d'expropriation. C'est leur finalité. Mais du coup, on va avoir au sein de ces dossiers énormément de précisions, à la fois sur la composition et sur l'état de ces logements, mais aussi, on peut également, à travers ces dossiers, connaître leurs occupants. Alors, Amante, cette vaste et minutieuse enquête, elle a lieu au cours des années 1943 et 1944. Et donc, elles aboutissent, comme je vous disais, pour chaque kilo déclaré insalubre, à des dizaines de dossiers, donc très, très fournis, très documentés, donc qu'on conserve aux archives municipales et dont l'examen est source de nombreux enseignements quant à la réalité de l'insalubrité à Mantes et aussi à la façon dont les autorités vont maintenant traiter de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus systématique cette problématique. Donc c'est ces dossiers sur lesquels Roselyne Bucelière a travaillé. Et donc, bah, je vais lui laisser la parole pour nous en dire un peu plus, parce qu'elle a eu la chance de pouvoir les étudier de manière beaucoup plus détaillée.
Je veux bien récupérer le... juste une petite minute.
C'est celui-là. Ouais.
Non.
Peut-être dans l'autre sens.
Dans l'autre sens.
Voilà.
Voilà.
Ça devrait arriver.
Voilà. Donc, je merci Damien. Vous allez voir que je suis tout à fait dans la continuité de ce qu'il a dit. Je voulais, en guise d'introduction, vous montrer ce plan qui a été réalisé par Hélène Bouisson, qui est architecte au CAUE des Yvelines et qui travaille avec moi dans cette aventure de l'inventaire du patrimoine de Mantes. Et donc, elle est partie du cadastre napoléonien. Sur lequel qu'elle a rabouté, parce que ce sont deux feuilles différentes, sur lequel elle a mis en rouge les bâtiments qui étaient encore en place et en bleu les bâtiments qui avaient été détruits. Donc effectivement, ça corrobore ce que disait Damien tout à l'heure. Et on verra que ce n'est pas que la guerre qui a détruit ces bâtiments. Alors je voudrais donc, pour ces îlots insalubres, souligner le contexte politique. On est en juin 1940 et donc il y a le problème de la défaite, bien sûr, de la démobilisation, du chômage justement lié à la démobilisation, et le gouvernement de Vichy donc souhaite se lancer dans une politique de grands travaux pour, je cite, favoriser les familles nombreuses pour lesquelles le logement est d'une importance primordiale. Il devra tendre à l'amélioration de la race. N'oubliez pas qu'on est sous le régime de Vichy, à l'amélioration de la race par le développement de l'hygiène et la pratique des sports. Nous revoilà cette hygiène dont Damien vous a parlé. Et pour citer un exemple en dehors de Mantes, donc bien sûr je vais revenir sur Mantes, je voudrais vous citer l'exemple de l'îlot 16 qui a été récemment publié par Isabelle Bacouche. J'ai le gros volume ici. C'est un îlot du Marais, donc dans lequel il y a eu une volonté de résorption de l'habitat insalubre. Alors il s'appelle l'îlot 16 parce qu'en réalité les campagnes d'enquête sur les îlots insalubres aboutissent à un classement. L'îlot qui est classé 1 et l'îlot qui est le plus gravement insalubre, on va dire, et l'îlot 16, enfin, au fur et à mesure qu'on avance dans les nombres, c'est moins grave. Sur 17 îlots, donc, il y en avait... enfin, l'îlot 16, vous voyez, était avant-dernier, donc il n'était pas si insalubre que ça. Mais il y a quand même une action musclée dans ce quartier, et le contexte politique est important, c'est parce qu'il y a une population juive importante dans ce quartier-là, et donc la résorption de l'habitat insalubre à cet endroit a été l'occasion d'évincer des familles juives. Donc vous voyez, parfois on utilise l'insalubrité pour d'autres fins. Ça n'est pas le cas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça n'était pas le cas à Mantes, hein, bien sûr. Mais j'aime bien ce proverbe quand même qui est cité là. Un proverbe courait dans la France de jadis: quand on veut abattre son cheval, on dit qu'il a la morve. Et peut-être que les quartiers de Mantes n'étaient pas aussi insalubres qu'on veut bien le dire. Alors, il faut aussi rappeler le contexte architectural. Je voudrais vous citer Le Corbusier. Il est temps de répudier le tracé actuel de nos villes par lesquelles s'accumulent les immeubles tassés, s'enlacent les rues étroites pleines de bruit, de puanteur, de benzine et de poussière, et où les étages ouvrent à plein poumon leurs fenêtres sur ces saletés. Donc là, on est en 1923. Et en 1943, donc juste un petit peu après, il y aura bien sûr la publication de la charte d'Athènes qui date de l'entre-deux-guerres. Elle est publiée en 1943, mais elle date de 1933. Et Le Corbusier, à propos de l'île aux 16, donc du Marais, dit « C'est l'occasion de se débarrasser des foules inertes, de ceux qui n'ont véritablement rien à faire à Paris et dont la place est à la terre ou à des industries à transplanter. » C'est quand même violent comme... comme manière de régler le sort des quartiers. Alors, le conseil municipal de Mantes, donc, en 1938, dans la lignée de ce que Damien vous a dit, récapitule les actions passées et prévoit donc le recensement des logements insalubres dans les bas quartiers, car il existe de véritables taudis, véritables foyers de tuberculose. C'est bien sûr la question principale. L'arrivée de Vichy donc, et cette politique nationale de résorption de l'habitat insalubre pour donner du travail notamment aux chômeurs et pour loger les familles, pour améliorer la race, on va dire, est affirmée dans une conférence du 21 janvier 1941 que j'ai retrouvée aux archives de Mantes. C'est André Guton donc, qui est architecte urbaniste en chef du département de la Seine-et-Oise, c'est-à-dire qui est la voix du préfet donc, de Vichy. Et il dit donc, il est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, au moment où le problème du chômage réclame avec insistance un programme de grands travaux, il est normal de songer au problème des taudis. Et donc, cet appel, finalement, à résorber l'habitat insalubre à Mantes est décidé lors du conseil municipal extraordinaire du 16 avril 1941, où on décide de dénoncer l'insalubrité d'îlots, donc 5, 6, 7, 9, 9 bis, 10 et 11, d'un plan qui a été levé. Ce plan, le voici. Donc, vous reconnaissez vous pouvez vous repérer par rapport à la collégiale, à la rue nationale. Donc, c'est tout ce qui concerne les parties à droite de cette route nationale. Alors, j'ai mis un petit ovale pour souligner les îlots qui sont touchés. Donc, par exemple, l'îlot 3. Qui abritait la gendarmerie n'est pas concerné. Ces îlots, ils sont importants parce que vous allez voir, il se trouve que ce sont les îlots qui vont être bombardés. Pas tous, mais certains en tout cas. Et donc là, il y a vraiment une juxtaposition entre les deux éléments. Bon, je vous montre de nouveau le cadastre napoléonien. C'est vrai que ces îlots étaient densément peuplés avec des petites parcelles. Comme le montrent ces détails, les photos sont pas très bonnes, mais voilà à quoi ils ressemblaient. Et alors, dans ce que vous disiez, Damien, donc cette enquête qui a été faite extrêmement précise, donc on l'a regroupée sur des petites fiches comme ça. Par exemple, dans l'îlot 11, qui aura changé de nom dans le plan de 1944, il s'appellera îlot 10. Vous voyez, il y a à la fois un plan, donc ça c'est le plan de localisation, une photographie, pas toujours de très bonne qualité, mais qui permet de se repérer, et puis le plan levé du bâtiment. Et vous voyez donc que ce sont, par exemple, pour le bâtiment qui est à gauche, ce sont de petits bâtiments dont on voit la localisation en haut. Il n'y a absolument aucun espace libre autour. L'espace libre, c'est la rue, en fait, mais il n'y a pas de courette à l'arrière. Alors, je vous montre quelques exemples. Donc, ce sont des bâtiments, en fait, dont on peut dire... Ils n'étaient pas d'origine médiévale, mais plutôt du XVIIe, XVIIIe siècle, comme le montrent certaines compositions. Donc voilà, en voilà encore un sur la place Saint-Maclou. Je voudrais souligner le plan que vous voyez à gauche, qui est vraiment typique d'un plan du XVIIe, XVIIIe siècle, avec, on entre donc, c'est la partie droite du plan de gauche, on entre par une porte étroite qu'on voit au-dessus, et puis on a un long couloir qu'on appelle au XVIIe siècle une allée, qui conduit à l'escalier qui est commun au bâtiment sur rue, au bâtiment sur cour. C'est une économie de construction, en fait. On construit donc un seul escalier commun pour l'avant et l'arrière. Évidemment, les bâtiments qui sont sur rue n'ont pas d'espace arrière, qui sont réservés aux bâtiments qui sont sur cours. Enfin, ça crée un habitat très dense. Si vous donc voilà d'autres plans qui vous donnent toujours cette. On a l'impression en fait que les choses se sont densifiées au fur et à mesure. Il est probable qu'au départ il y avait des parcelles qui étaient bâties simplement sur rue. Puis au fur et à mesure que la population augmente, les arrière-cours ont été lotis. Enfin construit, et donc ça donne un habitat très dense. Et je reviens à le bâtiment qui est à droite ici, qui se trouve donc rue Notre-Dame, 13 rue Notre-Dame. Il se trouve que j'avais en tête l'illustration que vous avez à droite ici, qui est extraite d'un traité d'architecture du début du XVIIe siècle, qui est fait par Lemuet, et qui vous montre. Donc, ce sont des modèles de maisons en fonction de la largeur de la parcelle. Et si vous regardez donc la planche de Lemuet, vous voyez, on entre par. Le rez-de-chaussée se trouve à droite, on entre par une porte piétonne, donc. On a un long couloir qui s'appelle une allée, on arrive dans une cour et on a un escalier qui dessert à la fois la partie sur rue et la partie sur cour. Si vous regardez le plan de gauche, donc, qui est le plan de Mantes, enfin d'un immeuble de Mantes, vous avez exactement, c'est exactement la même composition. Là c'est vraiment frappant. La géométrie, enfin, c'est moins régulier parce qu'un plan de géomètre théorique, c'est toujours très régulier. Dans la réalité, on s'adapte à la forme de la parcelle. Mais néanmoins, on voit bien la concomitance des deux plans, et notamment donc, cet escalier ouvert sur la cour qui dessert à la fois les bâtiments avant et arrière. Et ce sont des bâtiments ici de deux étages. Et donc ce bâtiment dont je vous ai montré le plan, voilà. Alors c'est la seule photo que j'ai trouvée dans les casiers. Donc vous voyez, c'est bien un bâtiment de deux étages aussi. Donc on est vraiment dans cette configuration-là. Bon, il y a plein d'autres bâtiments qu'on pourrait relever. C'est vrai que l'état général quand même laisse à désirer. On voit bien sur la photo de droite là que les façades sont plutôt lépreuses mais c'est peut-être un défaut d'entretien aussi. Alors je continue, il y a une autre distribution qu'on retrouve aussi, donc c'était pour vous. Cette fois-ci, on a un long passage d'allée et puis donc l'escalier qui se trouve à l'arrière. Alors donc, l'enquête a été menée et donc il s'agit d'exproprier. L'expropriation, elle a été faite. Elle a été faite du 3 au 11 juillet 1941. Et donc, une fois qu'on a exproprié, il faut reconstruire. Et les projets de reconstruction sont confiés à Raymond Gravereau et à 5 autres architectes, dont vous avez la liste en dessous, Battu, Le Mercier, Marabout, Marozo et Vergniaud. Alors, Raymond Gravereau, en deux mots, c'est un architecte qui est né à Croissy-sur-Seine, donc pas très loin, 1905-1991, et il a été formé à l'École des Beaux-Arts, comme Raymond Lopez, dont on parlera tout à l'heure, dont il est sorti en 1930, et d'ailleurs avec peut-être son ami, j'en sais rien, enfin en tout cas son collègue Raymond Lopez, en 1937-39, il a construit un hôpital à Brest, dont je vous ai mis le plan ici. C'est un hôpital plutôt spectaculaire, l'hôpital Morvan, qui est un mélange de classicisme et de modernité, on va dire, notamment, si vous regardez le bâtiment qui se trouve à droite, vous voyez, il y a une colonnade au rez-de-chaussée et puis des étages, et le bâtiment de gauche a un petit étage qui s'appelle un étage d'attique, qui est vraiment une référence antique. Alors, ces avant-projets donc, que Gravereau et ses collaborateurs ont fait sont examinés lors du conseil municipal du 1er mai 1943. Et donc, on retrouve encore la volonté de supprimer le taudis, lutter contre les épidémies, la tuberculose. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer l'habitat. Alors, quels sont les projets qui ont été faits? Donc, on est en 1943, hein, il n'y a pas encore eu de bombardement. Donc les îlots qui ont été décidés en priorité, ce sont les îlots qui sont autour de la place Saint-Maclou, qui vont de la place Saint-Maclou à la Seine. Voilà un détail. Donc là, ici, en haut à gauche, vous avez l'îlot Saint-Maclou, la place Saint-Maclou, et puis on descend vers la Seine. Et en fait, il y a trois, alors on ne dit pas îlot à cette époque, on dit lot. Il y a trois lots qui ont été décidés. Le lot numéro 1, dont voici l'avant-projet, donc c'est le lot de la place Saint-Maclou. Et si vous, on reviendra tout à l'heure, mais si vous avez un peu en tête la place Saint-Maclou aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même un air de ressemblance. Là, on est en 1943, la place Saint-Maclou n'a pas encore été détruite. Donc c'est vraiment un élément important. Voici la façade avant en haut, la façade arrière en bas, qui était destinée à des artisans. D'où ces ouvertures en bande ici, ça s'appelait la cour des artisans, donc c'était destiné à de l'artisanat. Donc voilà la façade sur la place, la façade arrière, donc avec ses fenêtres en bande. L'îlot B, donc l'îlot A, c'était la place Saint-Maclou. L'îlot B se trouve juste derrière. C'est aussi, vous voyez, si vous regardez bien le bâtiment qui est en bas, avec ses travées d'escalier, vous devez en avoir en tête aussi. Voilà, je zoome un petit peu pour vous les montrer. Et c'est un îlot dans lequel il y a à la fois de l'habitat collectif et de l'habitat particulier que voici ici. Donc il y a vraiment cette volonté de faire de l'habitat collectif et de l'habitat particulier. Cette volonté, donc ce projet en était dans cette situation-là, il y avait expropriation, mais ça coûte cher tout ça, donc la ville avait un petit peu ralenti ses projets. Et à partir du 6 novembre 1943, on trouve aussi l'arrivée de Raymond Lopez comme urbaniste chargé du plan d'extension et d'embellissement de la ville. Donc revoilà encore ce serpent de mer, on peut dire, qui réagit. Alors Raymond Lopez, c'est un personnage extrêmement important de la deuxième moitié du XXe siècle, et pour Mantes, puisque c'est l'auteur du plan de Valfouré, évidemment, mais pas que, il a vraiment beaucoup œuvré, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. En tout cas, Raymond Lopez, donc, c'est un architecte urbaniste qui a été diplômé de l'École des Beaux-Arts en 1932, donc vraiment contemporain de Raymond Gravereau. Il a aussi, et ça c'est important, il est aussi passé par l'Institut d'urbanisme de Paris. Donc il a une formation d'architecte et d'urbaniste. Et à mon avis, l'urbanisme l'a emporté sur l'architecture, même s'il fait les deux. Donc il est aussi architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux. Il est professeur à l'École spéciale d'architecture, à l'École polytechnique et à l'École des travaux publics. Il sera architecte conseil du ministère de la Reconstruction. Et il est auteur d'un ouvrage, L'avenir des villes, que j'ai apporté, j'ai pas trop le temps de vous en parler ici, dans lequel il est quand même très virulent sur... Il est dans la lignée de Le Corbusier, pour faire simple, il a les mêmes idées. Alors, donc, il dresse le plan de reconstruction de la ville. Et voilà ce qui est dit au Conseil municipal du 29 août 1946. Les opérations d'expropriation étaient en cours et les experts avaient terminé leurs travaux lorsque les événements militaires se sont précipités le 30 mai 1944. Toute cette partie intéressée fut complètement détruite par le bombardement aérien. Donc, en fait, ce qu'il avait été prévu d'exproprier pour le reconstruire a été en grande partie bombardé, ce qui fait que ça a permis d'aller plus vite, parce que cette fois-ci, puisque c'était des bombardements, comme le dit le texte, c'est à l'avantage de la ville qui n'aura pas à intervenir dans la participation des dépenses, puisque ça sera fait pris en charge par le ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme. Alors voilà le périmètre, donc c'est ce qui est en bleu, le périmètre qui sera reconstruit, qui est détruit et qui va être reconstruit. Pour vous situer, vous avez la collégiale en bas, l'axe de la route royale puis nationale qu'on voit bien, et donc on est de part et d'autre. Et les îlots insalubres que je vous avais montrés, donc ils étaient les projets de reconstruction, ils étaient du côté de la place Saint-Maclou, que vous apercevez en haut, la tour Saint-Maclou étant encadrée en noir. Donc voilà un autre plan. Alors voici ce périmètre de reconstruction. Donc comme c'est habituel, le quartier est divisé en îlots. Donc il y a l'îlot A, que vous apercevez, qui est autour de la place Saint-Maclou, l'îlot B, qui est l'îlot qui est à l'entrée de la ville, puis les îlots C, D, E, F, G, donc on avance au fur et à mesure vers l'intérieur de la ville. Dans cette, c'est Raymond Lopez qui est à l'origine de ce plan de reconstruction. plan général. Après, il y aura des architectes d'opération qui feront les bâtiments. Et donc, il est félicité par le conseil municipal qui, pour ses conceptions hardies et harmonieuses à la fois. Et puis, on est toujours sur la résorption des îlots insalubres, du souci de pratiquer le plus possible des trous d'air, de lumière et de verdure, tout en accroissant les capacités de logement. Les premiers îlots qui ont été construits, ce sont les îlots de la place Saint-Maclou, donc dit immeuble Isaïe. Qu'est-ce que c'est que des immeubles Isaïe? Ce sont des immeubles sans affectation individuelle. Alors, pour comprendre les choses, donc je vous ai mis le cadastre actuel, vous voyez la place, je suis désolée, j'ai une flèche, mais bon, voilà, vous voyez la place Saint-Maclou ici, les immeubles Isaïe, ce sont ceux-ci, et donc pourquoi on les appelle immeubles sans affectation individuelle? Parce que au lieu que ce soit des propriétés juxtaposées, c'est une copropriété en fait. Ce sont des immeubles de copropriété, alors que derrière, les immeubles qui sont aussi des immeubles de reconstruction, vous voyez, se succèdent des propriétés. C'est les seuls immeubles Isaïe de Mantes, et le gouvernement, justement, avec le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le MRU, était vraiment très favorable à ces immeubles Isaïe, d'une part pour aller plus vite, et d'autre part aussi pour pouvoir mettre des projets plus modernes, pour influencer un petit peu les choses et que ce soit des projets plus modernes qui se fassent. Le meilleur exemple qu'on puisse citer, c'est celui du Havre. Donc je crois que j'ai mis... le Havre. Voilà les immeubles Isaïe du Havre, qui, paraît-il, sont passés hier soir à la télévision, mais je n'ai pas vu. Ça tombe bien, ça tombe bien. Et donc, vous voyez, c'était ça le but de tous ces urbanistes, de tous ces architectes de la reconstruction, c'était de moderniser le pays, c'était de résorber l'habitat insalubre et les traditionnelles rues tortueuses, etc., de faire des rues larges. Donc voilà ce qui a été fait au Havre. Néanmoins, à Mantes, le propos est moins moderne. Si vous regardez donc ces images-là, qui vous représentent la place Saint-Maclou aujourd'hui, on est plus près en fait de ces images que je vous ai montrées du projet de 1943 que de la modernité à tout craint du Havre. Et donc c'était extrêmement important. On voit bien qu'il y a une continuité entre les deux. Alors, bien sûr, on n'est pas dans la place Saint-Maclou telle qu'elle était avant, avec ses petites maisons certainement étroites et hautes, avec une modénature un petit peu particulière. Néanmoins, il y a un souci quand même de rester dans la tradition. Le matériau, d'une part, c'est la pierre du pays. Les toits, on aurait très bien pu faire... Enfin, tout à l'heure, le Havre, je vous ai montré, c'est des toits terrasses qui sont vraiment dans l'air du temps. Là, on fait des toits en tuiles. Et puis, il y a quand même une volonté de décor très léger. Ces arcades du rez-de-chaussée, enfin... Bon, on est resté dans une tradition moderniste, on va dire. Enfin, c'est un mélange des deux. Je pense que c'est important aussi, la population de Mantes, je n'ai pas lu de texte à ce sujet, mais devait être très fortement traumatisée par tout ce qui s'était passé. Et c'était vous me direz, comme celle du Havre. Mais c'était peut-être aller un peu trop vite que d'arriver tout de suite à la modernité, à toit-terrasse, etc. Mais vous allez voir qu'on va y arriver petit à petit, en fait. Les choses se font en plusieurs temps. Alors, voilà la qualité de cette place, donc Saint-Maclou. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, l'architecture urbaniste et l'urbanisme de cette époque-là veut que tous les immeubles, autour des immeubles, l'air circule. Donc, vous avez, par exemple, ces immeubles qui donnent sur la rue Nationale, qui, en fait, sont en peigne par rapport à la rue. Au lieu autrefois, ils étaient en longueur. Là, ils sont en peigne. Et donc, ça permet à l'air de circuler tout autour. Ils sont distincts les uns des autres. De même, les immeubles... Mais par contre, sur la rue, on a une illusion de front urbain, en fait, parce qu'ils sont rejoints par des boutiques en rez-de-chaussée. Donc, c'est un mélange des deux. On a respecté l'importance de la rue, quand même, la rue Nationale qui desservait la ville. On a joué sur les deux, en fait, de manière très habile. Et vous voyez, il y a des avant-corps. Enfin, il y a vraiment un souci de rester dans une tradition architecturale. Alors, ces immeubles Isaïe, donc, ils sont quand même construits rapidement. Hein. Il y a 6 appartements de 2 pièces, donc 5 immeubles, 6 appartements de 2 pièces, 14 de 3, 13 de 4, 3 de 5 et 4 de 6. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des économies. Donc, il est dit, la salle commune distribuera toutes les pièces, il n'y aura pas de couloir, donc. Et puis, les fenêtres, planchers, volets, blocaux, cuisines seront identiques, composées d'éléments standards. Bon, ce n'est pas étonnant. Derrière ces immeubles, donc Isaïe, on est toujours dans l'îlot 1, ce sont des immeubles donc, privés qui sont construits, et cette fois-ci, donc, dans le même esprit. Et surtout, vous voyez, au cœur de ces immeubles, il y a un îlot vert, en fait, qui est très important. Donc, d'un côté, il y a des immeubles, et de l'autre, dont voici la façade avant, et de l'autre, il y a des maisons individuelles. Donc, on est exactement dans la lignée de ces projets de 1943 qui avaient prévu une mixité des logements. Donc, voilà, là, ce sont des maisons de bourg, en fait, donc, qui sont alignées sur rue, mitoyennes, et qui se multiplient selon le nombre de familles. L'îlot B, maintenant. Lui, il est donc situé à l'entrée de la ville. Il a remplacé, voilà l'entrée de la ville avant les bombardements, donc où il y avait ce magnifique bâtiment que j'arrive pas à vous montrer, voilà ici, qui était un vestige d'une porte ancienne. Mais bon, l'îlot B, il est construit de manière plus moderne. J'ai respecté l'ordre alphabétique, mais en fait, il sera construit beaucoup plus tard. En fait, c'est plutôt dans les années 50 que 40. Je continue. Donc voilà, il marque l'entrée de la ville de manière très importante. Voilà ces îlots, donc vus d'avion, on voit bien que l'air circule autour des bâtiments. Alors si on continue, donc on va aller dans l'îlot C que vous voyez ici et dans l'îlot D. Et là, l'idée principale, c'est encore une fois que les immeubles ont un double ensoleillement et donc les cours intérieures sont ouvertes. Comme ici, ça a l'avantage donc de permettre à tout appartement d'avoir un double ensoleillement. Ça a l'inconvénient, alors là c'est pas très parlant, mais autrefois ces cœurs d'îlots, ils étaient cachés en fait. Donc tout l'aspect poubelle, ordure, etc., on ne le voyait pas. Là, ça nécessite un soin important à ces espaces-là, parce que sinon on voit tout ce qui se passe. Les îlots fermés permettaient de cacher. Donc vous voyez, il y a vraiment un soin. On retrouve ces hautes travées d'escalier aussi qu'on avait déjà vues. Mais au fur et à mesure qu'on avance, donc là on est dans les îlots E et F, les toits commencent à disparaître. On voit donc apparaître des toits terrasses. Je vous montre ce bâtiment-ci, donc qui est lui résolument moderne, enfin résolument dans la manière de construire des années 50 avec son toit terrasse, puis sa façade. En fait, ce que vous voyez là, c'est ce que les architectes de l'époque appellent la façade de service. La façade principale, elle est de l'autre côté. Malheureusement, si on peut dire, aujourd'hui, elle est un peu ombragée par un gros bâtiment qui la domine, qui est un central téléphonique, je crois. Je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Donc, bon, les idées ont été, la qualité a été un peu perdue. On continue avec l'îlot F, vous voyez, donc là, comme on est sur la rue historique, on a gardé les toits, et l'îlot G, qui est le seul îlot qui est en continuité directe avec des bâtiments anciens, comme vous pouvez le voir, donc qui respecte exactement l'élévation de ces bâtiments. Alors voilà cette reconstruction donc, qui s'est faite à la fois en tenant compte des projets qui avaient été faits en 1943 et puis des nécessités d'aller vite, de moderniser, les nécessités hygiénistes. À chaque fois, on retrouve les mêmes termes. Un autre sujet a été abordé lors de la séance de 1946, c'est celui de l'hôtel de ville. Parce que l'hôtel de ville ancien, je crois que vous connaissez tous, avait été détruit. Il se trouvait, en fait, donc je reviens à ce plan-là, il se trouvait ici. Il se trouvait ici, en fait, sur une place qui elle-même avait été coupée par le percement de la rue royale dans le prolongement du pont en 1756. Mais donc cet hôtel de ville a été coupé et dans un premier temps, un avant-projet est fait, somme toute relativement traditionnel, on va dire, avec un beffroi, des travées, enfin quelque chose de plutôt classique. C'est Raymond Lopez qui l'a fait, il est daté de, il me semble, février 1948. Mais vous le savez bien, l'hôtel de ville qui est construit, c'est celui-ci, dont voici de très belles photos qui sont aux archives municipales. Tous les documents que je vous ai montrés sont aux archives municipales, quasiment, sauf les photos actuelles que nous avons faites. Et donc on voit bien là la volonté de modernité qui commence à gagner de plus en plus. Et alors, c'est peut-être simpliste comme explication, mais je me demande si on ne pourrait pas la faire coïncider avec l'arrivée de Monsieur David, Jean-Paul David, qui arrive justement en 47. Hein, donc, parce que vraiment, Jean-Paul David, c'est le maire de la modernité à Mantes. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à propos du Val-Fouré et à propos de plein d'autres opérations qu'il a faites. Mais je me demande si... Bon, j'en ai pas la preuve, hein, c'est juste une hypothèse. En tout cas, on est de plus en plus moderne. Bon, voici l'intérieur de ce magnifique hôtel de ville, donc, qui, avec sa coupole de verre, qui est toujours là, même si elle est un petit peu masquée aujourd'hui. Et ce qui était très moderne dans son plan, c'est qu'il avait été prévu qu'on pourrait l'agrandir. Donc en fait, ça, c'est l'hôtel de ville tel qu'il a été reconstruit à partir de 1948. Ça, c'est l'hôtel de ville qui a été construit plus tard à la suite de l'augmentation de la population du Val-Fouré. Alors, plus par Raymond Lopez, parce qu'il est mort en 1966, mais par à la fois son fils et son collègue Longepierre. Donc on retrouve bien les deux. Et en bas, vous avez là la modernité à tout crin. En fait, on est monté en puissance, puisque là, on a vraiment un hôtel de ville moderne. Alors, attention, c'est pas Mantes, là. Mais c'est pour vous montrer au Havre, vraiment, cet hôtel de ville, où là, qui est résolument moderne, avec cette tour qui est importante. Donc je reviens à ce que je voulais vous dire. Vous voyez là sur cette photographie, on voit donc cette reconstruction qui est faite d'îlots vraiment ouverts. Enfin, l'idée de faire circuler l'air, circuler le soleil. J'ai oublié de le dire aussi, mais élargir les voies. Si je reviens un petit peu en arrière, je voulais vous en parler de ça. Voilà. À l'occasion de la reconstruction, donc, il a été décidé aussi d'élargir des voies. Et là, vous vous trouvez devant l'hôtel Dieu, donc, que vous reconnaissez, et il y avait une maison qui se trouvait juste à côté. Et en fait, la rue qui passait devant l'hôtel Dieu était très étroite. Hein. Et si vous regardez la photographie qui se trouve à droite, donc, c'est toujours l'hôtel Dieu, et vous avez cette large routière, donc, qui est le résultat d'un élargissement. Parce que les rues, pour laisser passer l'air et la lumière et le soleil, doivent être larges. Donc, à l'occasion du plan, ce que peut-être le plan ne suggère pas suffisamment, c'est qu'il y a eu un élargissement considérable des rues aussi qui a été fait à ce moment-là. Donc, des rues plus larges, des bâtiments plus ensoleillés, on va dire, qui ont une double orientation, des îlots plus ouverts. Voilà quel est l'objectif de ces architectes qui veulent moderniser le pays, mais moderniser Mantes. Mais pour conclure, je voudrais vous montrer donc ce plan-là, pour rejoindre ce que disait Damien. Vous voyez ce qui a été détruit, ce qui a été détruit et reconstruit, c'est pas du tout les bas-quartiers qui sont là. On en a la preuve puisqu'on a les immeubles de la reconstruction. Au passage, d'ailleurs, on notera que l'immeuble à l'entrée du pont n'est pas encore construit. Donc on doit être dans les années 50. Mais vous voyez que les bas quartiers dont je vous ai montré tout à l'heure les plans et les élévations, ils sont bel et bien encore là. Donc si vous voulez savoir ce qui leur est arrivé, eh bien il faudra venir à la prochaine conférence. Je vous remercie.